Le livre des règlements, une présentation de 1-855-MÊTRE.com. Les spécialistes en matière de CNESST et SAAQ.
1-855-MÊTRE.
Maître Sophie, comment ça va?
Ça va très bien, vous autres. Je me suis donc ennuyée.
Ben oui. Je te présente Daphné Malbeuf, oui. qui augmente la représentativité de la gente féminine autour de la table. Donc, tu n'es plus toute seule avec une gang de gars qui rit des
cas Adèle, que tu nous amènes. Par exemple, Adèle était toujours là.
Oui, mais là, tu parles de ta chienne en dessous de la table qui fait dodo. Oui, c'est pas ça, la représentation féminine.
Elle prenait pas tout le temps à mon bar, là. Fait que je suis contente d'avoir une alliée.
Elle était pas éveillée non plus.
Mais tu vas nous aider parce que des fois, Gilbert et moi, on est comme perdus dans le champ avec des noms. Elle nous a parlé. Il y a quelques temps, elle nous a parlé d'un sportif qui s'appelle Ossie Skrekken Ghost. Puis disons que ça a été un moment de dérapage dans cette émission. Tu vas nous aider, Daphné.
Ah, j'aime ça arriver avec des fois des histoires loufoques là, aux Jeux olympiques. On a été vraiment choyés. Pas cette semaine parce que j'ai un sujet beaucoup plus intéressant, mais dans les prochaines semaines, je vais vous raconter des histoires de règlement qui s'est passé pendant les Jeux olympiques. Puis c'est assez rigolo, donc on n'a pas fini de rire à cette chronique.
Excellent. Je veux souligner que tu as été, par le magazine Best Lawyers, nommé pour tes compétences dans la représentation des accidentés du travail. Alors, c'est l'une de tes expertises. Il faut le souligner quand même. Félicitations pour cette reconnaissance.
Hey, merci. Donc, ça fait 2 années d'affilée que je reçois cette nomination-là. Ça me fait chaud au cœur parce que c'est une nomination qui est canadienne et aussi c'est tes pairs qui votent pour toi. Donc, c'est pas une inscription. Je me suis pas inscrite du tout. C'est mes collègues qui ont voté pour moi pour dire que j'étais très, très bonne dans ce que je faisais. Alors, j'apprécie.
On remercie tes pairs. Aussi tes mères, il faut être inclusif. septembre, c'est le mois de la sensibilisation du cancer chez l'enfant. Puis, ça fait quelques mois qu'on t'a pas parlé. On sait que ton garçon qui a vécu toute une épreuve, ça se passe comment, là?
Ben, c'est ça, vous savez que j'ai fait le défi tête rasée mars-avril en début d'année. C'est très beau. Je suis très contente, finalement. Ça a été.
C'est fresh.
Ça change une personne. C'était très positif. Alors, voilà. Et ce mois-ci, c'est le mois de sensibilisation au cancer chez l'enfant. Et les nouvelles que je voulais donner, c'est suite à la recherche, justement, parce que des activités comme le défi tête rasée ramassent des sous pour la recherche. Mais grâce à la recherche, maintenant, ces cellules cancéreuses ont diminué de moitié grâce à un nouveau médicament.
Bonne nouvelle.
Vous comprenez, il n'y a pas fait de chimio, de radio, là, que de la médication.
Wow. Okay.
Donc, c'est là que la recherche, on voit comment importante qu'elle est et que ces activités-là continuent. Donc, c'est le mois de la sensibilisation du cancer chez l'enfant. Vous allez voir qu'il va avoir des petits rubans or tout le mois et plusieurs édifices du centre-ville vont également être illuminés en or. Donc, si vous voyez ça, une petite pensée pour nos jeunes qui se battent à tous les jours.
Mmh,
et
absolument.
Ça peut arriver à n'importe qui. Hein? Tes enfants, LP, tes petits enfants.
Ouais,
ça arrive pas juste aux autres.
Là.
Effectivement.
Quand j'entends ces histoires-là,
c'est le fun de voir que ça fait une différence.
Ouais.
Des fois, on a peut-être l'impression que notre 1$, 2$ vaut pas grand-chose, mais quand on entend des histoires comme ça, c'est encourageant.
Oui. Donc, donnez quand vous avez l'occasion.
Et oui, absolument. Il y a eu un cas déjà à soumettre au livre des règlements. C'est Jeannette Zakaria Zapata qui, pour l'instant, là, peut pas nous répondre. Elle est à l'hôpital dans un coma artificiel. Pas de détails nouveaux là-dessus. Les prochains jours seront déterminants. Quels sont ses droits à cette boxeuse qui débarque du Mexique pour venir se battre dans une carte au Québec, au CADIGA, et ressort de là avec une sévère commotion.
Moi, quand je regarde ça, c'est pas la force de l'impact, qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je pense tout de suite à comment qu'elle va faire pour survivre, cette jeune-là. Qui va mettre du pain puis du beurre sur sa table? Et la réponse, pour moi, en regardant ça, est très inquiétante. Alors, la question qu'on doit savoir, c'est quand on peut poursuivre quelqu'un, il faut quand même démontrer qu'il y a une faute et on sait clairement que la boxe est très légiférée. Donc, la boxe et le kickboxing est exclu du code criminel. Ça, en partant, on le sait.
Mais parce que tu n'auras pas voix de fin en donnant un jab, là. Ça,
non,
c'est
non, de toute façon.
Mais
on en a déjà parlé, là, à l'automne. Est-ce qu'un aréna est une zone de non-droit? Pas nécessairement. Fait que je pense pas que c'est l'événement de boxe comme tel qui est problématique, mais c'est en amont. C'est-à-dire que est-ce que tous les règlements ont été respectés pour l'inscrire? Puis quand on regarde les lois, vous avez raison, c'est très légiféré, bien, il y a 3 lois majeures qui gèrent la boxe. Donc, particulièrement, on parle de la loi sur la sécurité dans le sport. Et là, je veux vous parler de cette loi-là parce qu'elle adresse au ministère de l'Éducation, Loisirs et Sports. Est-ce que quelqu'un a interpellé Jean-François Roberge dans ce dossier-ci.
Ben, dans ce dossier-là, étant donné que la boxe est régie par la Régie des alcools, des courses et des jeux, ça vient du ministère de la Justice. Fait que c'est Geneviève Guilbeault qui a répondu. Ben, bien sûr, c'est la phrase qu'on est choqué par les événements. Par contre, on rétend notre confiance envers la Régie, puis le protocole était suivi, blablabla. Donc, c'est vrai, on n'est pas allé jusqu'au ministère des Sports parce que c'est à part la boxe et les sports de combat en général.
Oui, mais quand même, dans cette loi-là, c'est prévu que le ministère peut faire une enquête puis voir qu'est-ce qu'il y en est. Il y a une obligation de veiller à la sécurité et l'intégrité des personnes dans le sport. Puis il peut même faire modifier ou légiférer des certains règlements. Là. Donc, à partir de ce moment-là, la question que je pose, c'est que s'il y a une conséquence encore plus sérieuse pour la boxeuse, je pense que ça serait l'occasion de faire une enquête dans le sport par rapport à tout ça pour s'assurer de créer des balises à tout ça. On pense là, justement là, à Julianne Séguin, la petite patineuse, là aussi, là, qui a une commotion cérébrale, puis qui vit chez ses parents, puis qui n'a pas de possibilité raisonnable de reprendre sa vie en main. Mmh. Moi, j'ai le goût de vous dire, les fédérations sont là pour appuyer les athlètes dans leurs moments de gloire, mais où sont-ils dans les moments les plus sombres? Ils n'ont pas d'assurance. Ça n'a pas de sens. C'est un moment pour changer le tout.
Si j'ai un accident de la route et que ça m'empêche de travailler pour le reste de mes jours, j'ai des recours.
Oui, c'est un système no fault.
Si j'ai un accident de travail qui m'empêche de travailler jusqu'à la fin de mes jours, il est supposé avoir des recours, bien que des avocats comme toi, ça existe, parce que c'est pas toujours évident de faire reconnaître que ça vient du travail et il faut se faire justice, mais quand même, t'as des recours.
Oui, 90 % du temps, ça va bien. Hein? Moi, je représente les 10 % qui sont plus laborieux. Là. Le reste du temps, les lois sont belles. Là.
Et quand ça arrive dans le cadre de mon sport, organisé, là, pas mon jogging, là, mais exemple, je combat dans un ring et que ma blessure m'empêche d'avoir n'importe quel travail après, pas juste de remonter dans un ring, mais aussi, tu sais, Dennis Stevenson, présentement, là, il pourrait pas avoir un autre emploi. Là.
Exact.
Heureusement pour lui, dans le sens que sa carrière l'avait amené à avoir des bons revenus. Ouais, c'est pas le cas de tous les boxeurs et c'est pas le cas de la boxeuse mexicaine qui est arrivée ici.
Ben non, c'est ça. La Ligue nationale a prévu dans sa convention collective deux sortes de prestations. Tu as la prestation d'invalidité de fin de carrière et la prestation d'invalidité grave. Donc, c'est deux prestations qui vont donner celle qui est la plus rémunératrice. Donc, ça, c'est prévu et ça devrait être prévu ailleurs aussi pour les autres athlètes.
Et c'est combien? Est-ce que tu le sais?
Oui, parce
que
tu j'ai les montants.
OK, t'as les montants parce que dans le temps, je me rappelle, si un gars se blessait dans mon temps là, puis t'étais invalide à vie, je pense qu'il te donnait 150 000.
Mais actuellement, là,
c'est pas suffisant.
Ah, pardon. C'est ça.
Actuellement, la prestation d'invalidité de fin de carrière, là, si ça t'empêche de travailler, t'as été blessé dans ton sport de la Ligue nationale.
De travailler à... pas dans le hockey, mais de travailler dans la
Non, ça, c'est. Je te parle
juste
de convention. Oui, juste au hockey, là. Okay. Si tu as une prestation d'invalidité de fin de carrière, en bas de 31 ans, c'est 1 million. Au-dessus de 35 ans, c'est 200 000. C'est pas beaucoup.
Effectivement.
OK, ça va vite selon ton âge.
C'est parce qu'en dessous de 35 ans, les gars ont fait leur carrière puis ont fait pas mal leur argent aussi.
Ben, c'est encore drôle. Qui vraiment fait tant d'argent que ça dans la Ligue nationale? À part les grosses vedettes. Là,
Il y en a qui vont faire un an ou deux, mais ça va vite.
Non,
mais si tu fais 1,7 million en moyenne, si tu joues un 7-8 ans, tu devrais avoir une coupe de pièces à la banque.
Ça dépend,
c'est pas tout le monde qui joue 7-8 ans.
C'est pas
comment
tu gères, je le sais, mais en principe.
Les carrières sont longues au football aussi, en moyenne.
Les carrières sont courtes, c'est 5 ans.
Mais moi, je le vois, Daphné, dans mes dossiers d'accident de travail, d'accident d'auto, quand ils reçoivent une somme forfaitaire, ça brûle vite. Ils ont besoin de prestations régulières. C'est ça pour les encadrer. Sinon, tu vas t'acheter une maison, une auto,
Souvent, il y a des choses à payer, des choses à... Tu sais, là, tu vas payer tes choses, après ça, il ne restera plus rien.
Oui. Mais qu'est-ce qu'attendent les boxeurs qui font un sport dangereux puis que le risque d'invalidité est grand, étant donné qu'une défaite par KO, une commotion, ça peut être sévère, ça peut être un traumatisme crânien, puis ça peut t'empêcher...
Comme cette petite fille-là, elle ne boxera plus jamais.
Non, elle ne boxera plus jamais. Puis là, je me dis, est-ce qu'elle pourrait être couverte par une assurance privée? Oui, mais en principe, là, les boxeurs de l'extérieur ou même d'ici vont signer une décharge. Mais j'ai le goût de vous dire qu'une décharge selon le Code civil n'est pas bon. C'est-à-dire que tu ne peux pas renoncer d'avance à un préjudice corporel.
Okay.
Tu peux pas faire ça.
OK, fait que tu peux sauter par-dessus ça, même si ça a été signé.
Oui, en principe. Elle, ça démontrait, par exemple, là, qu'elle n'avait pas tous les critères pour effectivement faire cette activité-là. À ce moment-là, elle pourrait peut-être, je vous dis le gros mot, peut-être avoir des recours. Mais l'objectif aujourd'hui n'est pas de dire ce qu'il y en a des recours, c'est de favoriser un changement. Il pourrait avoir des assurances collectives pour les sportifs. Il pourrait avoir une protection à long terme. On ne peut plus les laisser dans cet état-là. Revenir sans protection, pression puis aux charges de leurs parents, là, puis elles puissent être capables d'être compétitives sur le marché du travail. Je pense à mes gens du Mexique qui viennent travailler dans nos champs québécois.
Oui, tout à fait.
Elles autres sont des étrangers. Ouais. Ils viennent remplir un contrat pour l'été.
Ils viennent faire un job qu'on est prêt de faire nous-mêmes.
Bon, peu importe.
On a besoin d'eux.
Qu'on veut pas faire.
Exact.
OK. Ouais. Mais ils sont couverts par la CNSST, c'est un accident de travail comme tel. Mais là, c'est difficile parce que vous savez, la boxe comme telle, en partant, c'est un sport dangereux. C'est sûr que tu as des blessures, etc. Mais ils pourraient quand même avoir une protection qui pourrait être mise sur pied, pas juste dans la boxe, dans tous les sports. Mm-hmm.
Et ça voudrait dire, c'est un peu comme les assurances, c'est que tu payes pour le risque. Puis après ça, l'assureur, généralement, gagne tout le temps parce que le risque, ben, t'as pas toujours un accident malheureux comme t'as eu là samedi. Fait qu'à un moment donné, ben, quand ce cas-là arrive, ben, il y a une cagnotte pour pouvoir aider la personne et sa famille parce que peut-être qu'elle sera invalide après ça. On parlait de.
Sûrement.
Elle reboxera plus, mais ce qu'on souhaite, c'est qu'elle puisse faire autre chose. C'est même pas sûr, ça.
C'est même pas sûr. Puis avant de terminer, je veux faire une petite distinction. Savez-vous que, dans un des règlements de sécurité dans le sport, pour un concurrent québécois, il est obligé de passer un CT scan à tous les deux ans. Et quand c'est un étranger, il n'y a pas cette obligation-là de passer un CT scan.
OK. Ouais. Donc, du cerveau. Ans, même si tu n'as pas eu de knock-out ou quoi que ce soit, il faut que tu passes un CT scan.
Oui, selon l'article 158 du règlement dans la sécurité des sports,
pas l'étranger,
un concurrent domicilié au Québec doit passer un CT scan lors de ses débuts professionnels et par la suite à tous les deux ans. Pourquoi ça ne s'applique pas aux étrangers?
Merci. Très bonne question et c'est là-dessus qu'on se laisse cette semaine. À mercredi prochain, Maître Mongeon, et pour te joindre, si jamais, malheureusement, aujourd'hui, vous avez un accident puis vous devez avoir et qu'on reconnaît pas vos blessures.
Le 1-855-MAT ou le 514-596-1110.
Bonne semaine.
Bonne semaine.